Je ne voudrais faire cette confidence à personne d'autre. Mais quand je m'habille, c'est toujours comme ça. J'ai un goût acre dans la gorge. Le goût de la mort. J'ai peur. Mais ça disparaît dès que j'entre dans l'arène. Dès que j'entends la musique et les clameurs de la foule, tout va très bien.
Toddy.
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important?
C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30. Pourtant, moi, j'étais fatigué après.
Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Un Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Trollstroya. Oh, ton cul.
Mavoulian, 7 première.
Oui, alors on repart sur l'histoire de la. Sur l'histoire de la caméra, là. Du plan.
Oui, c'est ça, mais l'expérience, vos expériences de son se poursuivent dans votre second film. Oui. Et comment c'est. Le second film, on vous l'a proposé ou bien vous avez aussi choisi le sujet?
Oui, j'ai choisi le sujet. Et on m'a proposé le second film après mon film d'Applause. Et cette fois, c'était à Hollywood. Alors, j'étais arrivé à Hollywood et mon second film s'appelait Les Carrefours de la ville, City Streets, avec Gary Cooper et Sylvia Sidney. Et là-dedans, une pensée m'est arrivée qu'il serait un enrichissement du son sur l'écran. D'exprimer les pensées d'un caractère sans parole du caractère même. Et la première fois, j'ai fait un gros plan de Sylvia Sidney, un plan muet. Et pendant que vous regardiez le visage de Sylvia, vous entendiez sa voix, la voix de Gary Cooper, la voix des autres caractères dans l'histoire, des sonnettes, des bruits et tout ça. Et qui se passait dans sa tête, dans ses pensées, ses souvenirs, ses pensées. C'est à peu près la méthode au théâtre que vous appelez, comment dites-vous ?
Aparté.
Et il me semblait que c'était un dévice naturel, un organique pour l'écran. Et quand je tournais cette scène, même mon assistant, et vous savez, un assistant toujours pense que vous êtes un Julius César, mais lui avait des doutes, des très grands doutes, et tout le monde pensait que ça sera très confus, que les spectateurs ne sentent pas ce qui se passe, parce que c'est les lèvres de Sylvia ne bougent pas, et toutes ces voix. Je pense qu'on a... underrate, comment dites-vous ça?
Sous-estime
le public, beaucoup, toujours.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr Antonin. Bonjour Antonin.
Salut les kids.
Et bonjour à vous pour une émission un peu particulière, un peu putaclic peut-être, hein, puisqu'elle sera consacrée à un cinéaste... Rouben Mamoulian, on va se mettre d'accord pour dire Mamoulian, hein, qui on va en parler, hein, aujourd'hui peut-être un peu oublié du côté des cinéphiles, une émission qui nous a été commandée il y a maintenant quelques années et malheureusement nous avons mis un peu de temps en fait avant de réussir à concrétiser cet enregistrement commandé par Xavier Pelletange, on peut le citer, hein, puisque via Tipeee il a filé suffisamment de billets pour qu'on puisse citer son nom. Merci à lui de nous avoir mis dans cet embarras, de nous avoir lancé ce défi, même, j'ai envie de dire, puisque je peux le dire, hein, quand on nous a sorti ce nom de Ruben Mamoulian, je me suis demandé, merde, qui c'est ce bonhomme?
J'ai cru que c'était une blague aussi.
avant de me rendre compte que j'avais pu voir deux ou trois de ses films déjà, mais j'avais jamais retenu du tout son nom. J'étais incapable, en tout cas, de dire merde, qui c'est? Et du coup, ça nous a poussé, il y a quelques années déjà, à nous lancer dans cette filmographie assez particulière. On va y revenir. Étant donné qu'on a eu beaucoup de mal quand même à faire cette émission, à savoir aussi par quel biais la prendre, ouais. C'est ça qui était le plus problématique, parce qu'on voit les films, c'est bien, mais en fait, comment est-ce qu'on en cause ? Comment est-ce qu'on en cause sans rentrer dans quelque chose d'un peu trop scolaire qui ne nous correspondait pas forcément ?
Et d'autant qu'en plus, contrairement à beaucoup de cinéastes de cette période-là, hein, parce que c'est quelqu'un qui a commencé à l'arrivée du parlant, c'est pas non plus un des très très grands noms de l'Hollywood classique. Quoi. C'est pas comme si nous avions commandé une émission sur Fritz Lang où tu dis, tu sais pas par quelle boule prendre, parce qu'en fait, il faut se taper au moins 50 bouquins pour se dire, tiens, je vais essayer de trouver une voie un petit peu de traverse et tout ça. Non, Mamoulian, il n'y a pas grand-chose. Quoi.
Non, c'est ça. En américain, en anglais, il y a quelque chose. En français, on a eu un livre qui nous a été transmis d'ailleurs par notre invité, puisque justement, l'un des kicks qu'on a eu pour pouvoir faire cette émission, c'est que Antonin a réussi à débaucher l'une de ses collègues. En fait, chercher très très loin, hein, finalement. Mais merci quand même.
Je l'ai chopé à la sortie de la fac.
Nous avons donc le plaisir de recevoir autour de cette table Kylian. Merci Kylian d'être avec nous aujourd'hui.
Mais merci à vous de m'accueillir aujourd'hui.
Et c'est grâce à toi que nous faisons cette émission, en espérant que tu vas pouvoir combler un petit peu tous les blancs que nous avons à propos de Ruben Mamoulian. Tu as quand même, toi, fait un mémoire donc sur, non pas Mamoulian, mais sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est l'un des films que lui a réalisé, mais c'est pas le seul à avoir adapté ce film non plus. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Merci en tout cas d'être là. Avant de te laisser la parole, donc je disais que Mamoulian, on avait du mal, quand on a reçu cette invitation à faire cette émission, à le placer un petit peu sur une carte ou à savoir comment en causer. Et en effet, en faisant quelques recherches, donc on disait peu de textes sur lui, mis à part ce livre, donc c'est Pierre Berthomieux qui l'avait écrit dans les années 90. Hein. Merci Kylian de nous avoir prêté, qui reste quand même un exercice assez scolaire. Et quand on fouille un petit peu encore à côté sur les textes qui ont pu être écrits, moi j'ai évidemment tout de suite foutu le nez dans le dictionnaire de Bertrand Tavernier, hein, sur les 50 ans du cinéma américain. Il n'était pas forcément très tendre en fait avec le personnage Mamoulian. Donc on le disait, on fait rapidement une petite présentation quand même du bonhomme. Donc c'est un géorgien à la base, hein, qui naît à la fin du 19e siècle, qui en effet va d'abord démarrer, je crois que c'est à Londres, et puis il va faire aussi des trucs à Paris, hein, mais dans le théâtre, la comédie musicale, Broadway, qui va être ensuite engagé en effet au tout début du parlant. C'est en 29, hein, qu'il fait son premier film, je crois, Applause. Et en effet, très vite, il est reconnu pour ses grandes capacités techniques, hein, notamment. Et puis, dans les années, dans les années 30 et 40, il va en effet réaliser quelques films, parfois même des grands succès. Hein, mais on a beaucoup de mal quand même. Enfin, les critiques ont en général beaucoup de mal à aller au-delà justement de ces innovations en fait. Et
ouais, bien sûr. Et oui, il y a de ça. Et puis juste pour quand même citer quelques titres de films qui, bon, peuvent ne pas parler, mais effectivement, il y a le Dr. Jekyll que tu as déjà dit, mais il y a quand même Zorro, qui est donc la deuxième adaptation de Zorro. Il va y avoir la Reine Christine avec Rita Garbo. Alors, autant de noms, le remake de Ninotchka, la belle de Moscou. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui serait vraiment très parlant? Je pense que c'est... J'ai peut-être même fait le tour à peu près. Enfin, en tout cas, de noms.
Alors,
qui peuvent surnager sur des trucs.
Il y a Becky Sharp, en effet, oui, pour les cinéphiles, voilà. Sur les cinéphiles, parce qu'on parle d'innovation. Et en effet, donc, c'est le premier, par exemple, à faire le film en technicolor, parlant. Voilà. Donc, Becky Sharp est une date aussi. Il fait des dates comme ça, un petit peu.
Ouais.
Mais qui sont...
Mais Becky Sharp, c'est vraiment une date pour l'étudiant en cinéma, parce qu'il se dit, bah voilà, c'est un peu comme La Tunique, premier film en cinémascope. Bah, Becky Sharp, premier film en couleur. Autant, voilà, La Reine Christine, Zorro et Dr. Jekyll, évidemment, on est dans des trucs truc où on voit à peu près où on peut se situer. Tout
en tout
ça,
cas, quand on, démarre un petit peu les recherches sur Mamoulian, ce qu'il en ressort, c'est que justement, c'est un cinéaste presque pour étudiants en cinéma, pour des rats de cinémathèque peut-être. Il a eu d'ailleurs sa rétrospective à la Cinémathèque française il y a une quinzaine d'années. Mais le grand public, évidemment, ne le connaît plus. Et même les cinéphiles, sans parler du grand public, les cinéphiles, eux aussi, ont beaucoup de mal, en fait, à... Enfin, tu parles de Ruben Mamoulian à n'importe qui autour de toi. Je pense que tu auras beaucoup de mal à trouver quelqu'un, en fait, qui est capable de dire qui c'est, en fait.
Oui, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que c'est aussi un truc dont on parlait un petit peu en amont de cette émission. C'est le regard qui peut être un peu compliqué pour nous parce que, bon, voilà, tu l'as dit, on s'est un peu plongé dans une filmographie. Moi, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu une bonne partie avec, voilà, des plaisirs variés, mais j'ai quand même fait des super belles découvertes de quelques films donc qu'on évoquera. Mais en tout cas, à chaque fois, j'ai été pris par ce double regard qui est celui du regard de au moins l'ancien étudiant de cinéma à regarder le film et de me dire tiens ah ouais ça c'est assez dingue il faisait ça dans cette année là quoi, c'est-à-dire le regard un peu de quelqu'un qui a une sorte de conscience en tout cas de l'histoire du cinéma et de me dire mais comment il a pu faire ça techniquement en 1931 ou en 1932, comment cet effet spécial peut arriver, tiens mais comment ça se fait qu'il y a un ralenti dans un film de 1932, moi je pensais que ça arrivait 20 ans plus tard. Donc il y a ce regard de pur historien, c'est-à-dire que nous on sait un peu, enfin on connaît vaguement l'histoire des formes, on sait que voilà il y a des le langage du cinéma a été fait par à-coup comme ça avec des gens qui ont fait plein d'apports, et quand tu vois ces films tu peux que avoir ce regard-là, ce qui peut aussi complètement biaiser la lecture du film parce que le regard un petit peu savant ou je sais pas quoi va prendre le pas sur le regard d'être dans le film ou pas, mais ça reste quand même assez important, et je pense que par exemple sur l'apport qu'il a pu avoir par rapport à la comédie musicale, tu peux en parler peut-être Kylian, c'est parmi d'autres innovations, c'est assez majeur.
Oui, concrètement, c'est vraiment majeur. Alors, faut vraiment pas oublier qu'il venait du théâtre quand même au départ, et ça se voit beaucoup dans son cinéma. Et c'est vrai que en fait, dans la comédie musicale, alors déjà dès le départ, en fait, il va être dans un mélange de genre, et donc je pense que c'est par là en fait qu'il va commencer justement à utiliser donc la comédie musicale, mais dans un film qui va pas s'y prêter forcément. Applause, le premier film en 1929, c'est concrètement ce cas-là, quoi. C'est un drame, et parmi ce drame-là, on a des scènes de burlesque, de danse et de chant qui sont en fait qui paraissent pas du tout en fait naturelles dans une comédie musicale. Et donc en fait il va par là justement invoquer des innovations techniques pour pouvoir mettre en place cette question à la fois de mélanger donc le chant, la musique, parce qu'il faut savoir quand même que dans les studios au début du parlant, il y avait quand même, enfin il le dit dans une interview, il y avait quand même un seul micro à la Paramount quand il est arrivé. Et donc en fait avec un seul micro, qu'est-ce qu'on peut en faire, et c'est à partir de là en fait qu'il a voulu mettre en place plusieurs choses comme par exemple faire une surimpression en gros de la pellicule visuelle et sonore pour que en fait une deuxième piste de son soit aussi sur la pellicule. Et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui nous paraît un peu oui c'est vrai, enfin classique, normal quoi, mais en fait à l'époque c'était quelque chose de vraiment innovant et nouveau quoi.
C'est à peu près ce qu'il dit, ouais, d'ailleurs dans le petit morceau d'interview qu'on a dit sur ce truc, enfin ce qu'il décrit c'est vraiment quelque chose qui paraît dans le petit morceau d'interview qui succédait à notre générique, c'est un truc qui paraît complètement commun quoi, un gros plan sur quelqu'un avec des voix off derrière, et voilà et ça a été un apport voilà évidemment considérable, mais qui paraissent évidemment évident aujourd'hui quoi. Et je pense que tu citais Applause, mais le film qui fait juste après, c'est ce fameux film Les Carrefours de la Ville là, ce film de gangster, mais celui qui fait après Love Me Tonight, enfin, en termes de comédie musicale, là, moi, pour le coup, moi, c'est ma plus grande découverte de tous les films de Mamoulian que j'ai vus. C'est vraiment le film qui m'a le plus enthousiasmé. Et ça se pose là, quoi. Enfin, en termes d'innovation technique, et pas uniquement sur ce truc de son, peut-être que tu peux même évoquer même le début du film. C'est assez ouf ce qu'il fait, quoi.
Oui. Alors après, le début du film, je me rappelle plus trop ce qui se passe.
C'est-à-dire que c'est la découverte de Paris, un matin à Paris, en fait. Et en fait, au fur et à mesure, donc on voit quelqu'un se réveiller. Il y a un bruit qui apparaît. Les uns après les autres, les les ouvriers, grosso modo, les gens qui travaillent à Paris, se réveillent, commencent à travailler et donc apportent chacun, l'un après l'autre, en fait, un rythme. Et on accumule, en fait, les rythmes les uns après les autres, ce qui va créer une vraie musique, en fait. Et donc, tous les gens qui travaillent, tous les gens qui sortent, tous les personnages qu'on voit apparaître vont apporter leur pièce musicale, en fait, au début du film, vont s'accumuler jusqu'à voir apparaître Maurice Chevalier qui commence à chanter sur ce rythme qui a été créé par une grosse dizaine, voire plus de personnages qu'on a vu apparaître dans une petite séquence, quoi. Et c'est vrai que c'est assez fascinant, et en termes de rythme, en termes de musicalité, en termes d'introduction de film, c'est vraiment une introduction exceptionnelle de film. Enfin, c'est un gros, gros plaisir, en fait. En termes de comédie musicale, voilà, le film va être basé justement sur ce rythme, sur la vie, en fait. C'est-à-dire que il a un talent dès le départ, on s'en rend bien compte. Il a un talent quand même pour l'introduction de personnages, de caractères, et puis surtout non pas d'un cœur de film, mais en tout cas d'une ambiance. C'est-à-dire que là, on est clairement dans la vie, on va célébrer la vie, et paf, au bout de 2 minutes de film, il t'a déjà annoncé clairement c'était quoi son projet, quoi.
Et je trouve aussi intéressant dans cette scène, c'est aussi la fin où justement il y a Maurice Chevalier qui ferme la fenêtre et justement les sons s'atténuent et s'éteignent finalement. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a un truc genre « Ah, les bruits de Paris, c'est pas forcément agréable ». Et en fait, je me disais, mais déjà en fait, de voir ça dans la diesel, voilà. Ça y est, je suis fatiguée. De voir ça, en fait, au sein de l'histoire, ce côté, donc à la fois donc, du son qui est vraiment conscient dans le film, et en même temps, en fait, le moment où le personnage prend lui-même conscience de cette musique qu'il entend au réveil le matin, et qu'en fait, il va l'enlever par justement un obstacle qui est la fenêtre, quoi. Et je trouve que rien que ça, pour moi, c'est déjà avoir une conscience du son et de ses capacités et de ce qu'il peut faire au sein de l'histoire du film, qui est vraiment folle, quoi.
Alors, je sais pas si c'était... parce que j'ai pas trop écouté l'extrait que t'as diffusé, Antonin. Il évoque dans cette interview, je sais pas si on l'a dit, hein, mais il y a sur YouTube en ce moment, en tout cas, les rushs d'une interview que André Labarthe a réalisée avec Mamoulian. Ça doit être dans les années 60, je pense, qui dure 1h40.
Je signalais que Labarthe, c'est donc le patron de cinéastes de notre temps hein, qui était, dont le principe, c'était vraiment qu'un cinéaste filme un autre cinéaste. Hein, ça a donné des chefs-d'œuvre du documentaire. Oui. C'est trouvable en pirate sur internet.
Et sinon, il y a des coffrets aussi DVD qui sont abordables pour certains, en tout cas. Mais voilà, c'est une interview non montée, donc c'est dure 1h40. C'est vraiment, on va à la rencontre du cinéaste et on voit les rushs. Et très tôt, en fait, dans l'interview, Mamoulian revient sur, évidemment, sa jeunesse, sur comment il en arrive au cinéma. Et au tout début, dans mon souvenir, en tout cas, il explique justement que, voilà, il a fait du théâtre avant, il a fait de la comédie musicale. Et quand il a cherché, il a fait du cinéma, il a tout de suite, en fait, cherché, qu'est-ce que le cinéma va pouvoir proposer que le théâtre, justement, ne peut pas faire. Alors, évidemment, ça passe tout de suite par des innovations techniques. Ça va être par exemple un truc tout bête. On sait bien qu'on parle du son, on parle pas assez souvent de son dans cette émission. J'ai un doute sur le film, donc je vais pas le citer. Mais il s'agit donc d'une jeune fille qui fait sa prière, et puis à côté, c'est dans Applause, tout bêtement. Jeune fille qui fait sa prière, et puis au-dessus d'elle, sa maman qui, elle, chante une chanson. Et comme tu le disais, voilà, il n'y a qu'une seule piste, comment on fait? Donc voilà, on va passer aux deux pistes pour pouvoir enregistrer à la fois la prière chuchotée de la jeune fille et puis la voix de la maman qui chante. Avec une seule piste, c'était pas possible. La maman qui chante, évidemment, aurait pris toute la place. Très vite, quand même, il se dit, c'est pas juste pour dire, tiens, je fais une innovation technique. C'est-à-dire que, en effet, il y a besoin de montrer ce fossé entre les deux, ces deux espaces différents, mais dans le même plan, pour montrer justement qu'elles cohabitent pas complètement, quoi. Cette innovation technique, elle est indispensable pour raconter son histoire, grosso modo. Tout le long de sa carrière, qui va pas être si longue que ça, finalement, hein, c'est vraiment les années 30, les années 40, et puis même dans les années 40, déjà, ça commence à partir de 42, en fait, à disparaître. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, vraiment, où il fait une quinzaine de films, il accumule, il enchaîne quand même, le type est assez costaud. Et à chaque film, il va se poser cette question-là quand même. Voilà, pour raconter cette histoire, il va falloir que j'utilise telle ou telle technique. Et c'est vrai qu'on est, non pas dans les balbutiements du cinéma, mais ce qu'on n'a pas redit, j'aime bien le rappeler quand même, c'est que l'arrivée du parlant a ramené en arrière quand même le cinéma. C'est-à-dire qu'à la fin des années 20, on avait quand même des cinéastes, comment il s'appelle le monsieur qui a fait Wings ?
Wellman.
Voilà, ouais, Wellman par exemple, pour être le plus extravagant ou le plus fascinant en tout cas, qui faisait des choses complètement dingues avec leur caméra, et l'arrivée du parlant a tout bloqué. Il fallait foutre la caméra dans une grosse cabine.
Tout le monde a vu Babylone, hein, franchement, tout le monde sait.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette chose ignoble. Voilà. Alors, et ben,
parce
et
que
ben,
Kylian
voilà.
est fan.
Et bien, non, et voilà. Mamouliane, c'est exactement les personnages de Babylone. Il allait dans des caves pour faire caca sur des crocodiles. C'était exactement son style. Mais voilà, c'est lui qui a permis, en fait, enfin, qui a participé, en tout cas, à faire cohabiter le parlant et puis justement ce que le cinéma était déjà capable de faire avant. Il faut revoir des films muets de la fin des années 20, c'est complètement dingue. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, il a contribué énormément justement à faire tout ça pendant une dizaine d'années, à ramener du mouvement, parce qu'il avait besoin de ça. C'était aussi venant du théâtre, je pense, justement, il a besoin de montrer, ben non, le cinéma, c'est pas la même chose. Et en fait, la caméra peut raconter d'autres choses. Le son du cinéma aussi permet de faire d'autres choses qu'au théâtre. C'est vraiment pas la même chose. Et ça, c'est très important. Et je termine quand même rapidement aussi sur sa bio, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, et ça me semble assez intéressant quand même. Et après, je vous laisse revenir aux innovations techniques et comment ça permet de raconter correctement une histoire. Et on évoquera James Cameron. Merci Antonin. Mais dans la fin des années 40, il a eu beaucoup de mal quand même. Je pense qu'il y a des projets qui fonctionnaient moins bien. Et son dernier film date de 57, en fait. C'est ce remake de Ninotchka qui était avec Greta Garbo. Mais là, il le fait avec Sid Charis. Je tiens quand même et Fred Astaire, d'ailleurs. Je tiens quand même à dire, parce que je ne l'ai pas précisé dans mon introduction, mais... l'un de mes premiers souvenirs de Mamouliane, c'est justement La Belle de Moscou, que j'ai dû voir quand j'étais au lycée, ou je pense que c'était au lycée plutôt qu'au collège. Et il s'agit d'un de mes premiers grands émois érotiques, en fait. C'est la scène
donc,
de...
Encore une innovation technique. C'est...
le striptease de Sid Charis dans La Belle de Moscou, c'est une des plus grandes scènes érotiques de l'histoire du cinéma, en fait. Voilà, ça déjà, c'est assez important. Et c'est son dernier film. Et le seul projet concret qu'il a eu après, c'était Cléopâtre. Il a été engagé, c'est lui qui devait faire Cléopâtre. Et en voyant, enfin, j'avais revu Cléopâtre il y a quelques années pour une des émissions qu'on a faites. C'était long quand même, Cléopâtre. Et tu dis, putain, c'est vrai que c'est un projet qui aurait pu lui aller comme un gant, en fait. Dans les thématiques, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur ces thématiques, justement, à Mamoulian, qui sont chères et qui le, on sait, un auteur. Il a vraiment ces thématiques qui le travaillent, que ce soit le double, voilà, des choses comme ça. Et là, on pense à la reine Christine quand on voit Cléopâtre, il y a vraiment quelque chose qui peut le travailler. Il a été viré très très vite, enfin il est parti, il n'a pas été viré, il est parti lui-même visiblement du tournage. Il a été remplacé par Mankiewicz, qui est quand même un grand cinéaste, si je peux me permettre. Et après ça, eh ben, il a attendu 25 ans avant de mourir, en fait. Ce qui est assez terrible. Bon, il n'a pas fait n'importe quoi pendant ses 25 ans, il a notamment, et c'est ce qui est raconté dans cet entretien avec Labarthe, et c'est pour, j'en parle parce que je pense que ça montre un petit peu le côté un petit peu taré du bonhomme, et je veux aller jusqu'au bout et je suis prêt à faire des efforts. Il s'est mis en tête par exemple de traduire Hamlet, la pièce de Shakespeare, de l'anglais à l'anglais, et il en parle très 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 bien. On aurait dû passer l'extrait de son interview plutôt que je fasse le traducteur, mais c'est très bien, Hamlet, c'est super, Shakespeare, il est fan, c'est exceptionnel, c'est important, il faut que tout le monde le lise, sauf que cette pièce a été écrite il y a 300 ans, et que soit il y a des mots qui étaient utilisés et que personne ne les comprend et ça va pas, parce que du coup personne ne les comprend, soit il y a des mots, les gens les comprennent, sauf qu'ils ont changé de sens en 300 ans, en fait, de l'anglais à l'anglais. Et donc ça lui posait problème, parce qu'il disait, mais Hamlet, tout le monde devrait pouvoir le lire, et ça devrait être ouvert encore aujourd'hui à nos lecteurs contemporains, en fait. C'est important adapter. Et donc, du coup, il s'est mis en tête de traduire le bouquin. Il a changé peut-être quelques centaines de mots, en fait, tout en essayant de respecter quand même le rythme, les alexandrins, tout le bordel. Donc, il fallait quand même. Et puis, il fallait qu'il fasse des recherches sur tel mot, quel sens il avait à l'époque, tel autre mot, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut trouver un équivalent? C'est un travail de. Voilà. Donc, ce bonhomme qui a fait des innovations techniques, il a fini sa carrière, un petit peu, entre guillemets, à faire ce genre de boulot.
Ouais, et puis enfin, je pense
c'est très significatif pour moi quand même.
On va faire une pause où justement il va peut-être, enfin il va évoquer un petit peu ce rapport aussi qu'il peut avoir avec le public et puis la nécessité qu'il doit y avoir d'établir un canal de compréhension total avec ce public-là, mais tout en innovant. Voilà, on a un peu parlé du truc technique, mais c'est aussi une évolution du langage et qui est non seulement au service de l'évolution du langage. Langage du cinéma, mais aussi de maximiser l'expressivité de l'outil qui était encore jeune au moment où il commence le truc, quoi. Et c'est vrai que dans cette traduction-là, tu dis oui, il y a quand même une volonté de rendre une complexité la plus accessible possible, quoi.
Tout en respectant l'œuvre originale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce travail-là, quoi. C'est-à-dire on respecte, et machin, mais il faut pouvoir en effet. Que le public, c'est le plus important en fait, ait accès à ce que toi t'essayes d'exprimer, que ce soit lui d'ailleurs ou justement Shakespeare. Et à moins que tu aies envie de revenir après encore sur les innovations techniques, mais est-ce qu'on a parlé du niveau sonore, mais pas longtemps après, par exemple, voilà, c'est lui aussi qui fait les premiers travelling du cinéma parlant, par exemple.
Je pense, en tout cas, c'est un truc qui est même très étonnant dans Applause. Moi, je l'ai pas vu en entier parce qu'en fait, j'ai pas trouvé une copie correcte, donc j'ai regardé. C'est tout ça, c'est sur YouTube, mais dans des qualités déplorables. Mais même Applause par rapport moi à d'autres films de 1929 qu'on peut voir du type Le Chanteur de Jazz, parce que Applause fait partie de ce gros bagage de films de comédie, pas de premier film parlant vendu comme tel.
Il faut que chaque studio ait son film parlant.
Mais ceci dit, Le Chanteur de Jazz, moi je me rappelle avoir vu ça, c'est super chiant Le Chanteur de Jazz, quoi. C'est bien historiquement. Et Applause, tu sens que c'est un peu raide, mais tu sens que tu as une volonté en fait à chaque fois de faire bouger la caméra, de garder cette expressivité maximale du muet, c'est-à-dire un truc très stylisé, mais qui pouvait y avoir dans le muet, de plaquer. Et ça va être là pour le coup très très visible dans Love Me Tonight, où là on voit que il n'y a pas ce côté très expressif et presque, enfin pas abstrait du cinéma muet, mais très avec une caméra presque stylo qui pouvait y avoir dans le cinéma muet, mais une volonté alors toutes les ressources de montage image qu'a le cinéma en 30 ans d'existence, on le réemploie, on ajoute à ça les possibilités d'expression du parlant. Il y a un gars qui est génial avec les trois tatas de l'héroïne là qui descend le truc, et puis leur voix pas désynchronisée, mais on y en fait leur timbre de voix fait qu'on dirait des aboiements de chiens, c'est hilarant. Enfin, ouais, c'est une innovation technique, mais tu vois les trois nanas qui descendent l'escalier, mais c'est hyper drôle. L'innovation dont je parlais tout à l'heure, alors qui n'a rien à voir avec le son, mais qui est du ralenti. Moi, je ne me rappelais pas avoir vu des ralentis dans le cinéma muet, et c'est un gag. On se croirait presque dans L'Alarme Fatale où le mec dit allez, il y a une vingtaine de cavaliers. Où le mec dit non, mais repartez, mais en silence, parce qu'il faut pas exciter l'autre cheval. Et en fait, au lieu de repartir en silence, tu as le plan qui arrive, c'est très vaste, il y a 20 cavaliers qui partent, et ils partent au ralenti. Et donc, il n'y a pas de bruit, quoi. Et c'est complètement les as. Mais c'est hyper drôle, quoi. Et ça reste, une innovation technique majeure, enfin, en tout cas, un truc que t'as pas l'habitude de voir. Et
c'est l'un des rares films qui est sauvé par Tavernier aussi.
Ouais, c'est vraiment très très bon. Mais on va passer, du coup, à ce petit montage qui va être un extrait de La Belle de Moscou que tu aimes tant, encerclé plutôt par des propos de notre cher Ruben Mamoulian, je l'appelle, parce que je préfère.
Vous savez, je pense que sur l'écran, comme dans le théâtre, après tout, c'est un peu différent de l'art de peinture, même de littérature. Vous pouvez écrire un livre qui reste dormant pendant un siècle et puis on le découvre un siècle plus tard. Ça est arrivé à M. Vermeer, vous savez, à beaucoup de personnes. Mais quand vous avez affaire avec le cinéma ou le théâtre, l'audience, le public, est la moitié essentielle de l'art que vous pratiquez. Et une pièce de théâtre ou un film qui ne communique pas avec le public, n'est pas un bon film pour le moment. Et on ne peut pas attendre un autre siècle pour le montrer. Ainsi que je trouve que dans un film, il faut toujours combiner un certain nombre d'éléments familiers et puis un nombre d'éléments nouveaux, révolutionnaires si vous voulez. Mais si vous faites tout de nouveau, alors ça ne réussit pas avec l'audience, les millions de spectateurs.
You must admit that this doomed old civilization of ours sparkles. It glitters.
Later this evening, I will go for a walk and observe your lights.
If you go by yourself, you won't see them.
Paris loves lovers. For lovers, it's heaven above. Paris tells lovers, love is supreme. Wake up your dream and make love. Only in Paris one discovers the urge to merge with the splurge of the spring. Paris loves lovers, for lovers know that love is everything.
Tell me, how many watts of electricity are consumed to light up this pleasure city of yours?
I haven't the slightest idea. Why don't we go out on the town together and find out?
The things I want to see can be seen better in daylight. The municipal works, the Reno automobile factory, the sewerage system. Will you show me those?
I would hate to.
Then I will go alone.
What time shall I pick you up?
Meet me in the lobby tomorrow morning at 6:30.
6:30? Can't you make it a little later, say 2? All right, dawn it is. Don't you ever have any desires to see the pleasures of Paris?
Pleasures. Paris. How was it you said? The urge to merge with a splurge.
That's right.
Paris.
Capitalistic.
Love, lover.
Characteristic.
For lovers,
sensualistic,
it's heaven above.
They should be atheistic.
Paris,
imperialistic,
tells lovers,
I'm pessimistic.
Love is supreme, wake up your dream and make love.
That's anti-communistic.
Only in Paris,
militaristic,
one discovers,
you're optimistic,
the urge to merge with the splurge of the spring.
Bourgeois propaganda.
Paris.
Unrealistic.
Loves lovers, for lovers know that love
is individualistic.
Is
and not at all collectivistic.
Everything.
But a low totalitarianistic thing.
Après ça, le film le plus... J'ai fait plusieurs films en couleur, comme vous le savez. Mais le plus satisfaisant était Les Arènes Sanglantes. Parce que dans ce film-là, j'ai traité les couleurs avec autant de précision et d'attention que je traitais le dialogue. Il est nécessaire pour un film en couleur d'avoir un script coloristique, ainsi dire, aussi important que le script actuel que vous avez. Et mon point de vue sur ça est que... sur l'écran, comme sur la scène, les couleurs doivent être traitées non pas du point de vue scientifique, même non pas du point de vue esthétique. Parce que dans le théâtre, comme dans la vie, souvent ce qui est fonctionnel devient esthétique. Et si vous suivez les couleurs et les utilisez sur l'écran du point de vue psychologique, qui est le plus important, parce que nous avons affaire avec la psychologie du public, des spectateurs. Le théâtre a affaire avec les émotions. Les esthétiques sont le résultat immédiat de ça. Et du point de vue psychologique, les couleurs sont des émotions. Parce que quoique il existe une certaine illitératie dans des matières de couleur.
Une certaine ignorance. Disons.
Ignorance, comme une langue étrangère. Mais même sans savoir les caractères des couleurs, chaque spectateur a des réactions physiques et psychologiques à certaines couleurs. Et ça doit contrôler l'usage des couleurs sur l'écran.
On vient d'entendre Ruben Mamoulian dans toujours ce fameux... ce gros tas de rush de André Labarthe déposé à la Cinémathèque française et qui s'est retrouvé pour notre plus grand plaisir sur YouTube on vous recommande en tout cas d'aller tout écouter. C'est assez fascinant, c'est toujours assez fascinant de toute façon d'écouter tous ces bonhommes un peu pionniers parler de leur art et de leur travail au sein des studios à l'époque, et surtout que c'est quand même des gens en plus qui parlent très très bien de leur métier et aussi de leur art, et je fais la distinction entre les deux, mais en tout cas pour Mamoulian il y a vraiment les deux. On va peut-être aborder plus maintenant ce côté c'est très scolaire, hein, mais on a un peu parlé d'un truc un peu formel, maintenant on va aller s'attaquer au fond. J'aime pas trop cette distinction là, mais ceci dit, c'est vrai que quand on travaillait, quand on se regardait des films avec Étienne, en se disant comment on va prendre ça, on t'essaye de prendre le truc sur cette politique des auteurs dont on parle beaucoup en ce moment, et se dire qu'est-ce que c'est le point commun entre tous ces films, parce qu'une innovation technique c'est pas un point commun, c'est un truc très Poiré aussi est un innovateur technique, est-ce que c'est un auteur, on ne sait pas, mais chez Mamoulian le truc qui sautait, d'un coup m'a un peu interpellé, c'est vraiment ce rapport au double et au double jeu aussi, et c'est pour ça aussi que et moi j'avais pas vu Dr. Jekyll encore quand je me suis dit ça, je me dis mais quand tu voyais Dr. Jekyll dans une film où tu dis que tu as déjà remarqué qu'il y a le thème du double dans des films, tu dis il y a comme une sorte d'obsession en tout cas assez récurrente dans tous ces films, donc évidemment ça c'est un travail pour toi Kylian de nous en parler.
Clairement en revoyant ces films justement, je trouvais que ça sautait vraiment aux yeux qu'il prenait dans ces films des personnages principaux qui se situent vraiment en marge de quelque chose et qui sont en fait toujours ils sont toujours scindés entre leur nature qu'ils ont au départ du film et à la fin ce moment où ils se disent est-ce que je reviens à moi-même littéralement, ou est-ce que je suis ce que la société veut faire de moi, et ça va être le cas par exemple dans la reine Christine qui va justement au départ donc même annoncée comme étant un homme qui va alors qu'elle est donc elle passe sur le trône en étant enfant. Et donc elle va grandir, assumer le trône, vraiment en plus de manière très badass, hein, on peut quand même le souligner. Et en fait après elle va rencontrer donc un homme, et ça va être le moment où elle va se dire est-ce que l'amour triomphe sur le trône, et surtout en fait son peuple va s'opposer en fait à cette union qu'elle aimerait concrétiser. Et c'est là où elle va devoir choisir entre vivre sa vie de femme, comme elle le dit littéralement dans le film, ou rester en fait au service de son peuple. Et donc au-delà même de ce film-là, dans Love Me Tonight, au départ, on est quand même sur un personnage, donc Maurice Chevalier, qui joue un tailleur, qui va être un peu arnaqué par un noble, et il va se retrouver en demandant la dette dans une proposition de se faire passer pour un baron. Et donc ça va bien l'arranger, parce qu'il a une petite nana qu'il aimerait bien...
Qu'il
aimerait bien serrer, littéralement. J'essaye de parler langage TikTok pour les plus jeunes de l'émission. Et en fait, il va se retrouver, encore une fois, rappeler que il est tailleur et que non, il n'est pas baron, et que il va devoir choisir entre la vérité ou garder ce mensonge, mais rester en fait dans l'amour qu'il a toujours voulu, quoi. Et donc Jekyll Hyde, c'est quand même le film par excellence qui va montrer ça, puisque Frédéric March joue le double rôle du docteur Jekyll et Mr. Hyde, et lui il va se retrouver dans mon mémoire, j'ai un peu travaillé sur l'idée de la figure progressiste de Jekyll, qui va en fait vouloir expérimenter, qui va vouloir en fait comprendre un peu ces phénomènes qu'il a à l'intérieur de lui, psychiques. Et donc on voit très bien que il a envie de se fiancer avec Muriel, parce que clairement il a envie de concrétiser la chose et il a plus envie d'attendre. Mais il est toujours rappelé par son beau-père que, valeur conservatrice à la fois de l'époque victorienne, puisque c'est une adaptation de Stevenson qui date de l'époque victorienne. Et donc, en fait, on retourne sur ces valeurs conservatrices qui font, en fait, tu vas rester frustré pendant quelques mois et tu vas attendre mon garçon. Et c'est parce qu'il ne veut pas attendre qu'il va utiliser la potion. Alors, la potion dans les écrits, on a toujours le truc, ça peut être de l'alcool, de la drogue, n'importe quoi, mais ça va être le prétexte pour lui pour trouver une autre manière de pouvoir assouvir ses pulsions, autre que par la voie classique et par la voie en fait que la société lui demande d'avoir, parce que c'est un scientifique, un médecin, qu'il est reconnu et qu'il doit absolument garder cette belle image propre de lui, quoi.
Mais oui, c'est un truc en tout cas qui court. Je sais qu'en fait, de toute façon, cette thématique du double, elle est hyper intéressante. Il y a aussi un film que tu n'as pas cité, mais là-dessus, qui est vraiment le truc tout con, hein, mais c'est Zorro, quoi. Où là, Zorro, on est vraiment dans vraiment l'origine même du récit de super-héros qui travaille vraiment beaucoup ça. Hein. On sait que Zorro, ça a donné naissance à Batman dans tous les sens du terme, hein, même biographiquement, en tout cas dans le lore de Batman, en tout cas, quoi. Mais c'est vraiment assez dingue, ce truc-là, parce qu'en fait, du coup, on est vraiment sur... Quand on a la thématique du masque, et ça, c'est un truc qui est très propre à ça, c'est que le masque, en fait, c'est pas le masque de Zorro, en fait. C'est plutôt le masque que va prendre Diego de la Viga, justement, pour bien montrer qu'il n'est pas Zorro, quoi. Donc, il va surjouer un autre type de personnage. Et en fait, c'est très riche, ce truc-là, parce que ça induit vraiment... ça va mettre en évidence les fonctionnements sociétaux, d'acceptation sociale, de répudiation sociale. Et dans La Reine Christine, on a vraiment, tu en as très bien parlé, mais ce truc-là, que le masque qu'elle prend un moment pour accomplir son amour, c'est le masque de la masculinité. Et la scène, évidemment, à regarder d'autant plus aujourd'hui, avec tous les questionnements environnants, elle est fascinante, parce que tu dis, là, c'est vraiment le trouble dans le genre total. Tu regardes ça aujourd'hui, c'est un truc de malade, quoi. C'est super drôle. Moi, je trouve que le film s'en remet même pas, parce que la scène est tellement impressionnante à regarder aujourd'hui, de ce mec qui drague un autre mec, parce qu'il prend pour un autre mec, et puis en disant, mais c'est fou, quoi, c'est génial, j'ai l'impression de découvrir un truc, limite il découvre son homosexualité, tu pourrais. Donc après, c'est un peu plus compliqué, je trouve, pour moi, à mon sens, le film. Mais par contre, il y a quand même cette continuité de la thématique du double, parce que elle est prise dans le masque social qu'elle doit avoir. Donc il y a un vrai discours sur la société, et c'est un truc, alors dans La Reine Christine, pas vraiment, à part dans cette scène-là, on n'est pas trop dans la comédie, mais je sais que dans Keeper Gain, qui est une sorte de comédie aussi, pas une comédie de remariage vraiment, mais ça, c'est son film de 42 avec Henry Fonda et la sublime Jean Tierney, on est vraiment aussi dans un truc comme ça, avec chacun prend l'autre pour quelqu'un de très très riche, alors que c'est deux crevards, hein, tout simplement. On va mettre en évidence le jeu social, et en termes de comédie, ça fonctionne à plein, quoi, hein, à base de quiproquo et tout ça. Et moi je trouve que, en tout cas, dans Keeper Gagne ou Love Me Tonight, il tire un parti assez fou de ce truc-là en potentiel comique, quoi.
Mais je trouve aussi que, si on dézoome un peu sur ça, on voit que dans les années 30, alors déjà, il y a eu la crise de 29 quand même, qui a été vachement importante dans l'histoire de l'Amérique et du cinéma. Et je pense que Mamoulian, il a vraiment bien capté justement ce moment où, à l'arrivée de la crise, il y a eu une espèce de table rase des choses où, par exemple, les classes sociales, elles étaient plus du tout définies. enfin, elles étaient redéfinies et elles étaient complètement extrêmes. Par exemple, la place de la femme, ou pendant les années folles, les années 20, c'était les libertés, ça fume, ça danse, ça met des robes où on voit les chevilles. Et en fait, on revient dans les années 30 sur quelque chose où, hop là, on va reculer un peu parce que là, on est un peu allé loin, on sait pas trop où on va et on sait pas trop ce que ça donne. Et je trouve que dans ces films, et ben ça, vraiment, il y a un côté où j'ai l'impression qu'il met toujours un peu ça en avant et que justement, enfin même rien que dans l'industrie hollywoodienne à ce moment-là, il y avait plein de choses qui se mettaient en jeu entre l'arrivée du code Hays, donc le pré-code au départ, parce que justement pré-code égale crise de 29, on a envie de mettre des choses un peu plus saintes, plus catholiquement passable, parce que clairement c'était les catholiques qui mettaient la pression pour arrêter ça. Et d'un autre côté, en fait, c'est des films spectaculaires qui marchent. Notre industrie, elle est en crise en ce moment. Clairement, en fait, on a besoin de mettre des choses spectaculaires, des nanas qui sont un peu dénudées pour que le public vienne toujours. Et lui, justement, il arrive en 32 avec Jekyll et Hyde et ça retrace tout ça, en fait, dans un seul film, quoi. Et donc, je trouve qu'il arrive vraiment à capter quelque chose de très réaliste dans ses films par rapport à la société américaine à ce moment-là, quoi.
Je suis absolument d'accord, bien évidemment. Il y a le film dont on a déjà évoqué, La Belle de Moscou, qui est encore une fois un film assez méprisé par même les gens qui aiment beaucoup Mamoulian, en fait, qui lui aussi rentre dans tout ce que vous avez pu dire, en fait, à savoir justement, donc c'est un remake de Ninotchka, hein, donc cette femme russe qui doit venir aux États-Unis, en fait, pour promouvoir, je sais même plus quoi d'ailleurs, je sais plus pourquoi elle est en Amérique.
C'était pour il y avait un compositeur, en fait, qui
devait
être
en voilà. Russie. Mais... C'est vraiment un prétexte.
Mais justement, il y a toute l'histoire mais l'idée, c'est que
l'idée, c'est de voir cette femme russe qui est vraiment une communiste convaincue, qui vit aux États-Unis, qui découvre le mode de vie américain avec cette liberté qu'elle n'a pas là-bas et qui va devoir lutter. Pardon ?
C'est à Paris qu'elle est.
C'est à Paris en plus, oui. Mais bon. Oui, t'as raison. Mais elle découvre en tout cas une liberté qu'elle n'a pas chez elle, en fait. Et l'idée, c'est justement qu'elle va devoir lutter contre ses envies de liberté, son goût de ce qu'elle découvre, en tout cas sur place, et puis ses convictions, en fait, qu'on lui a inculquées, qu'elle n'a pas choisies, en fait, mais que, voilà, qu'elle vit là-bas. Donc on retrouve encore toutes ces thématiques. Et c'est quelque chose qu'on voit toujours, mais c'est quelque chose qui a, jusqu'à son dernier film, justement, c'est présent, en tout cas, ce combat entre des gens à qui on leur demande de représenter quelque chose, d'être quelque chose, mais eux, ils ont envie d'autre chose. Donc ça, c'est un truc qui va toujours garder, c'est impressionnant, parce que, compris dans la Reine Christine, enfin, il y a des dialogues qui pourraient clairement être des dialogues que Mamoulian lui-même pourrait dire en tant que créateur, un extrait qu'on entendra tout à l'heure justement pour la fin d'émission où la reine Christine découvre le bonheur grosso modo et c'est cette liberté de pouvoir enfin vivre de ces pulsions, de ces passions surtout, en fait. Y a un truc qui m'intéresse moi beaucoup chez Mamoulian, on a évoqué donc la technique, on a évoqué les thématiques. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment, justement, et pourquoi, j'ai pas toutes les réponses, hein, mais il utilise les techniques pour, justement, évoquer toutes ses passions et tous ses conflits intérieurs. Et c'est pour ça que j'évoquais, alors, un peu à la rigolade, introduction James Cameron, mais quand Mamoulian évoque, justement, la couleur ou le son ou le mouvement, en fait, dans sa mise en scène, il me semble que c'est pas gratuit du tout, en fait. Et en fait, il cherche un moyen d'exprimer de manière cinématographique des conflits et une évolution de la part de ses personnages. Et justement, sur ces problématiques de passion contre, justement, des obligations sociétales ou autres qu'on leur impose, en fait. Et ce que le théâtre ne lui permettait pas, ce que la littérature ne permet pas non plus forcément de faire ressentir en tout cas un public, parce qu'il pense toujours à son public. Et donc voilà, les innovations techniques, c'est bien, mais c'est pas gratuit, en fait. Ça doit être au service d'une narration et de l'expression d'un personnage ou d'autre chose, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, toutes ces animations qu'il a faites, et il y en a eu pas mal finalement, que ce soit au niveau sonore, au niveau des mouvements de caméra, au niveau de la couleur, il en a fait pas mal quand même.
On n'a pas signalé aussi une innovation assez majeure, mais dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a la caméra subjective.
Voilà, subjective. Enfin voilà, c'est des mouvements de caméra. Il y a quand même... il accumule un petit peu ces innovations. Elles ne sont pas gratuites. Alors comme on l'a entendu dire tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit justement un film uniquement une accumulation d'innovations. Ce serait un peu simple et ça, on rentrerait dans le cinéma expérimental. Ce n'est pas ça qu'il cherche absolument pas. Lui, il reste quand même dans une forme assez classique de narration, mais innovatrice. On ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui. Mais c'est très innovateur et en effet il le disait, les chefs de studio se demandaient est-ce que les gens vont comprendre ce qui se passe si jamais on entend des voix mais qu'on voit pas les gens parler, ils vont pas comprendre. Bref, tout ça pour dire que ces innovations techniques, elles sont importantes, faut vraiment s'en rendre compte, elles sont très importantes parce que c'est nouveau, mais elles sont au service de la narration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, moi, la seule personne à qui ça me faisait penser, c'était James Cameron, parce que ça me rappelait en fait ce que disait James Cameron à propos de l'utilisation des effets spéciaux dans Terminator 2. À savoir que avant Terminator 2, on découvrait les effets spéciaux, le numérique, d'autres choses, mais c'était finalement dans un cadre de cinéma d'action, c'était utilisé gratuitement. On aurait pu presque enlever plein d'effets spéciaux, plein d'explosions, machin. Ça changeait rien à l'histoire, ça ne disait rien non plus sur les personnages. Terminator 2, l'histoire ne pouvait pas être racontée s'il n'y avait pas ces effets spéciaux, ces effets numériques, et donc là, c'était indispensable pour raconter cette histoire. Mais entre les deux, finalement, il y a évidemment des contre-exemples. Il y a plein de films de monstres ou choses comme ça où finalement le film n'existe pas s'il n'y a pas ce. Mais c'est vrai que l'innovation technique en elle-même, Mamoulian, il y en a pas beaucoup après lui en fait qui ont cherché. Mais en tout cas, qui sont parvenus à faire de vraies innovations techniques qui ont aidé à faire avancer la narration.
Mais ça va même plus loin que ça, parce que justement, en reprenant par exemple le point de vue subjectif dans Jekyll et Hyde, donc la séquence d'ouverture, c'est vraiment, donc on incarne le personnage donc de Jekyll qui se prépare et qui va à une conférence. Et il faut savoir que toute cette, enfin dans cette première séquence, à la sortie du film et donc à l'arrivée du code, il y a une bonne partie qui a été censurée, notamment le moment où il arrive devant le miroir. Parce que pour la censure, c'était impossible qu'on associe le spectateur à Jekyll, donc au mal, et qu'on lui prenne, en fait, on l'associe avec justement ce type de personnage-là. Et donc ça veut dire qu'en fait, dans cette technique, bah, y a vraiment quelque chose qui a été même problématique à ce moment-là, parce que ça associait justement beaucoup trop le spectateur à des choses auxquelles il n'est pas censé être associé réellement, quoi. Et justement, tout ce truc des pulsions, quoi. Bah, par exemple, si là ça a été quelque chose de réprimé par la censure, bah, dans les années 40, donc à l'arrivée du code, bah, clairement la publicité qui a été faite sur la version de Fleming de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'était on va montrer votre inconscient, on va montrer vos pulsions qui sont cachées et tout. Et bah, au final, quand on voit la transformation de Spencer Tracy qui joue le double rôle, bah, en fait il y a pratiquement pas de maquillage qui se fait, il y a pratiquement pas d'effet. Et donc là, après, on va rentrer sur un autre discours et une autre volonté de montrer les choses. Mais au final, là, on associe plus quand même le spectateur aux choses. Mais le film montre quand même que c'est mal. Enfin, c'est très mal ce qu'il fait. Alors que là,
il y a une vraie grosse morale
qui l'entoure. Alors que dans la version de 1930, c'est vraiment vous avez des pulsions, assumez-les.
C'est
quoi.
Ça, voilà. Oui.
Et ça, c'était vraiment problématique pour l'époque.
Et c'est vrai, après, pour quitter un petit peu aussi ce truc d'innovation technique, moi je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué aussi dans la découverte des films, parce que déjà moi j'ai découvert Maurice Chevalier, je suis même pas sûr d'avoir vu un film avec Maurice Chevalier auparavant, où j'ai trouvé vraiment vraiment très bon dans Love Me Tonight. Mais il y a un vrai talent aussi de directeur de comédien, et je sais que toi Kylian t'es hyper fan de Frédéric March, et moi je me dis dans Dr. Jekyll et Hyde, effectivement, l'effet spécial est toujours aujourd'hui assez dingo, quoi, mais le Frédéric March est assez dingue, et je pense que en termes de type de jeu qu'il peut avoir. Dans ce type de jeu que peut avoir Frédéric March, il y a aussi quelque chose qui est propre au truc de Mamoulian. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est très stylisé, hein, les films de Mamoulian, ce qui peut empêcher des fois l'adhésion totale, parce que voilà, c'est assez signifiant et tout ça. Les innovations techniques, des fois, sont sursignifiantes, donc du coup, on n'est plus impliqué. Oui. Mais même certains films ont plus, des films plus classiques, de mise en scène plus sobres, ont des fois mieux vieilli que des films qui ont des innovations techniques majeures où on sent la sursignifiance parce qu'il faut passer un petit peu au forceps. Moi, je sais que Carrefour de la Ville, cette fameuse scène de Sylvia Sidney avec des voix off où on exprime ses pensées, tu regardes ça maintenant, tu ne peux avoir qu'un regard d'historien. Émotionnellement, elle ne marche pas, elle ne marche plus. En fait, elle est juste, c'est presque un effet comique à la Zaz de voir Valeria Golino dans Hot Shot qui est assaillie par des voix off qui lui disent ouais non mais enfin voilà, on est dans un truc très trop sursignifiant. Mais par contre voilà, il y a quand même un usage, il y a quand même cette sorte de volonté très expressive et qui est des fois hyper opérante. Et je pense que voilà, dans Frédéric March, dans son type de jeu très expressif, vraiment pas du tout naturaliste, et assez dingo, quoi.
Non, mais c'est super intéressant ce que tu soulèves, parce que justement parmi les nombreuses innovations que Mamoulian a pu faire, la question du jeu d'acteur y participe beaucoup, parce que donc l'arrivée du parlant c'est une nouvelle manière de voir le jeu d'acteur, et donc au départ les acteurs étaient très influencés par la méthode de Del Sarte, qui est une méthode aux États-Unis qui a beaucoup été un peu caricaturée, parce que c'est beaucoup la représentation des émotions par les gestes. On voit vraiment c'est vraiment le typique, la caricature du théâtre qu'on peut donner, de lever la main sur le front pour dire oh là là, je me sens pas bien ou quoi. Et donc au muet, c'était essentiel, parce que pour s'exprimer, c'était comme ça qu'on pouvait, et la parole ne pouvait rien y changer. Et donc à l'arrivée du parlant, une bonne partie des acteurs venaient du théâtre, et donc d'un jeu qui était très expressif. Et même Mamoulian, lui, étant passé en Russie et a fait des études là-bas, il a été formé sous un étudiant de Stanislavski. Et Stanislavski, c'est un des premiers en fait à importer une méthode un peu différente qui donne une part de psychologie un peu plus importante, et qui est à l'origine un petit peu de l'acteur studio qui va arriver après.
Il en parle, hein, pardon, je te coupe, mais ouais. Mamoulian a parlé de l'acteur studio justement en disant être plus royaliste que le roi, hein, c'est comme ça qu'il exprimait l'acteur studio, c'est-à-dire que reprendre ce que faisait Stanislavski, mais les acteurs souffrent. Mais ça revient au même, mais par contre, les acteurs souffrent.
Voilà. Mais ça, et justement, dans le film, c'est ultra intéressant, parce que March venait donc d'une méthode très expressive à la Del Sarte, et lors des discussions, Mamoulian était en mode non, c'est quelque chose où tu as vraiment une part de psychologie qui est vraiment extrêmement importante. Déjà, par le maquillage dans Hyde, il va y avoir en fait quelque chose qui va ressortir du personnage, et donc dans ton jeu, tu te dois d'être un peu plus sobre et d'essayer d'atténuer un peu tout ça. Et en fait, on voit au final que March, il est toujours dans un entre-deux. Et je trouve que dans son jeu, il y a des choses qui sont vachement intéressantes, parce que, par exemple, il a les mains. La gestuelle des mains, elle est assez particulière. Et en fait, elle se retrouve à la fois chez Jekyll, mais aussi chez Hyde. Il va avoir les mêmes mimiques, en fait, de mains. Et ce qui va montrer, en fait, petit à petit, que justement, les deux personnages ne sont qu'un. Et que justement, on ne peut pas les séparer, et qu'on ne peut pas, en fait, les diviser et les. Et justement, comme dit sa théorie, de séparer Hyde, de le tuer pour garder le bien, non en fait, parce que même rien que dans le jeu, le jeu, il est lié entre les deux personnages, et ils ne peuvent pas rien que là-dedans, ils ne peuvent pas se séparer.
Il va être temps, malheureusement, de terminer cette émission. Avant ça, j'avais juste un petit conseil, moi, pour les gens qui, comme moi ou Antonin, cherchent des films à montrer à leurs enfants. Et on a évoqué Zorro, hein, bien évidemment. Zorro, vraiment, si vous cherchez des films à montrer à vos enfants qui pourraient avoir entre 7 et 10 ans, je pense que c'est un grand film d'aventure qui est très impressionnant, avec des effets qui fonctionnent à plein. Et puis en effet, avec tout ce qu'on a pu dire jusqu'ici, hein, mais bon, c'est les enfants qui regardent, ils n'ont pas toutes... Mais vraiment, je conseille. Et puis en tant que spectacle, même pour les adultes, moi je sais que je l'ai revu deux fois là en espace de quelques semaines. C'est un spectacle assez sensationnel, on va dire. Ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Et pour tous ceux qui sont fans de films de super-héros, en effet, on a toute la base aussi qui est présente. Je rappelle aussi que City Streets, par exemple, dont on parlait, est sorti, lui, en Blu-ray chez Rimini. Il y a assez peu, hein, finalement, d'objets qu'on peut
trouver en France. Zorro est disponible chez Elephant.
Zorro est toujours disponible. On a aussi Arène Sanglante, qui était sorti il y a maintenant pas mal d'années, d'ailleurs, je crois. C'était chez Wildside ou chez Carlotta, je ne sais plus. Peut-être bien Wildside. Mais c'est vrai qu'en France, mis à part MGM... pour qui Mamoulian a travaillé, qui a pu sortir, on peut retrouver des DVD, hein, des vieux DVD quand même de certains films, que ce soit La Reine Christine par exemple, ou je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais il y a quelques MGM en tout cas de Mamoulian.
La Reine Christine en tout cas, il est disponible en tout cas sur Ciné Plus en ce moment, ah, mais bon, dans voilà. Des copies très belles.
Voilà, mais voilà, il y a quelques films quand même qu'on peut retrouver, mais même La Belle de Moscou, hein, a été sortie en DVD, donc il y a quand même quelques films de Mamoulian qu'on peut trouver. Mais c'est vrai que bah aujourd'hui ça reste finalement non seulement un cinéaste qui est oublié, dont le nom ne parle pas à grand monde, et donc évidemment les distributeurs d'objets n'ont pas forcément d'intérêt, hein, à sortir ces choses-là, mais on n'a pas forcément évoqué Arène Sanglante. On l'a entendu, Mamoulian en parler, hein, tout à l'heure d'Arène Sanglante, même si c'est loin d'être son meilleur film, c'est vrai que visuellement tu te dis bah tiens, si on avait une restauration bonne du film, le moindre plan du film est une peinture en fait. Visuellement c'est assez exceptionnel.
Quand Arène Albert Serra fera son film sur la tauromachie, il va le sortir l'année prochaine, peut-être que l'Arène Sanglante ressortira, parce que c'est voilà, tellement vendeur Albert Serra que tous les distributeurs.
Évidemment, évidemment. Mais je conseille en tout cas même Arène Sanglante, avec voilà, c'est qui fait la même année que Zorro, hein, avec le même acteur, enfin le même couple d'acteurs d'ailleurs. Moi, je le conseille, même si c'est pas son meilleur film, loin de là. Il y a quand même, bah, déjà visuellement, c'est assez exceptionnel. Merci en tout cas, Kylian. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir permis d'ailleurs à cette émission d'exister. Sans ça, s'il n'y avait pas eu ta présence, on n'aurait jamais fait cette émission sur Monsieur Mamoulian.
Mais merci justement à celui qui a donné les sous-sous pour faire pour demander cette émission. Et puis merci à vous de contribuer et puis de mettre en lumière quand même ce réalisateur que je trouve qui est vachement intéressant. Et j'espère que en écoutant l'émission, les personnes comprendront que vraiment il a participé vraiment grandement au cinéma. Et je pense que c'est ça le principal à dire ce soir, quoi.
Merci.
Et c'est pas pour ça que tu auras une part des 100 euros. Hein.
Non, faut pas déconner. De toute façon, ils ont déjà été claqués il y a déjà longtemps, malheureusement. Hein. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si jamais des auditeurs ont des envies particulières. Hein, je sais qu'on a pu faire d'autres émissions via Tipeee, comme Sergio Leone, par exemple. Et il y en a une prochaine de prévue en rapport avec Mamoulian, hein, Jean-Marie Poiret.
Tout à fait. Alors, comme quoi, on a vraiment des auditeurs qui sont des pervers. Hein. Vous pouvez pas nous donner des trucs genre Zack Snyder, Guy Ritchie,
Non, pas. Je préfère largement me faire tout Jean-Marie Poiret qu'un seul Zack Snyder. Non, je refuse. Ouais. Non, il va falloir refaire le Tipeee si vous voulez faire une émission.
On va
Zack
faire une
Snyder,
liste de mecs.
Ça coûtera beaucoup plus cher. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Et ça nous permet aussi, nous, d'acheter des DVD de Mamoulian, par exemple, quand il faut en acheter. De préparer ces émissions. C'est un plaisir, même si ça met parfois plusieurs années. Et toutes nos excuses à Xavier, donc, qui avait participé, qui avait commandé cette émission. Toutes nos excuses d'avoir mis tant d'années à la faire. Mais ça y est, elle est là. Et j'espère que c'était suffisamment intéressant à votre goût. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canabé, bien évidemment, en podcast. Et puis retrouver le lien, hein, sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise pour réécouter cette émission. Merci encore une fois, Kylian. à très bientôt. Et puis, n'hésite pas, si jamais tu as d'autres mémoires sous ta sacoche dont, que tu aimerais évoquer.
Suffit largement pour ça. Ça sera...
Mais non, mais c'est bon, t'étais bien parti. Puis faire un autre
je crois
mémoire.
Tu as fait une thèse sur Guy Ritchie.
Excellent. Merci. Antonin,
aïe, aïe, aïe.
D'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. On se quitte avec un extrait de la Reine Christine, si je ne dis pas de bêtises, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.
Des bisous.
Que faites-vous ?
J'essaie d'imprimer ces images en moi. Plus tard, dans ma mémoire, je reviendrai souvent dans cette chambre.
Attendez, je vous révélerai le monde entier.
J'avais imaginé le bonheur, mais on n'imagine pas le bonheur. On éprouve le bonheur, de même la joie. Toute la joie que j'éprouve maintenant. Antonio.
Oui.
C'est ce que Dieu a dû ressentir quand il contempla son œuvre achevée et qu'il vit ses créatures respirer, vivre.